Faire des recherches sur l'actualité, trouver des informations, révéler la vérité. Ce sont les tâches que doit mener à bien un journaliste. Mais ce serait trop beau si tout était toujours aussi simple. Comment faire des recherches sur les actualités quand on est pris en otage? Ce n'est pas possible. Vérifier les informations, difficile dans une dictature. Prouver la vérité face à des fake news qui se propagent toujours plus vite. Vous voyez, le métier de journaliste est parfois très difficile et dangereux.
Nous sommes 25 élèves du lycée Félix Faure et du Humboldt Gymnasium et aujourd'hui nous expliquerons à quelles difficultés et parfois même à quels dangers sont confrontés les journalistes pour exercer correctement leur métier. Nous parlerons également du métier de reporter de guerre, des conditions d'enquête sur des sujets sensibles ou encore de journalistes entravés par un propriétaire et sa ligne éditoriale. Commençons par parler de conflits comme ceux en Ukraine et à Gaza. Ils représentent de grands défis pour les journalistes qui tentent de les documenter en mettant parfois leur vie en péril. Nous écouterons donc d'abord Emma, Mickaël et Nils qui nous présenteront le dur métier de reporter de guerre.
Les guerres gagnent de plus en plus d'importance. Il est important d'avoir des journalistes de guerre. Mais c'est quoi un journaliste de guerre? Il voyage dans les pays de guerre et réunit des informations, il fait des photos ou parle avec les victimes pour informer la population et les donner des informations vraies. Pourquoi il fait ça et dans quel but? Il risque sa vie pour donner au monde entier des informations preuves et vraies dans les pays de guerre. Il faut avoir une bonne culture générale et un intérêt à l'actualité. Il faut être ouvert d'esprit. Il faut avoir une bonne attitude à communiquer et avoir de la curiosité. Il faut être flexible, mais aussi avoir une résistance au stress et être résilient.
Donc le reporter peut montrer plusieurs aspects de la guerre. Tout d'abord, il peut montrer un aspect géopolitique, donc par exemple une rivalité entre deux grandes puissances pour des ressources. Il y a aussi un aspect diplomatique, par exemple ça peut être une négociation de traité de paix, mais aussi un aspect logistique, donc la gestion et le ravitaillement des troupes, ou encore un aspect humanitaire, donc ça peut toucher à la fourniture d'aide humanitaire aux populations civiles touchées. Reporter de guerre est un métier complexe et surtout très complet, car il a plusieurs missions. Tout d'abord, il mène son enquête et vérifie des informations. Puis il observe la situation, recueille des témoignages ainsi que des images. Et pour finir, il écrit ses articles ou alors il réalise ses reportages en images. Pour ce faire, les reporters vont sur le terrain, soit en équipe, soit tout seul. Et là-bas, ils retrouvent un fixeur sur place qui les accueille et les guide. Il organise aussi ses rendez-vous, traduit leurs conversations et aussi les aide à se loger et à se nourrir. Lorsque le reporter a fini sur le terrain, il envoie tout aux médias qui fournissent ensuite au public des informations complètes. Il faut savoir qu'un reporter peut travailler pour plusieurs journaux à la fois. Certes, c'est un métier avec une grande liberté au niveau du choix des sujets, mais il y a quand même des restrictions. Par exemple, sur le terrain, la censure est très présente, car il ne faut pas trop montrer la violence de la guerre, et c'est une demande officielle des autorités. Mais la propagande est aussi présente, car les autorités, parfois, cherchent à contrôler ou à manipuler les informations diffusées au sujet du conflit.
Les reporters de guerre font aussi face à des risques et des conditions de travail difficiles, comme par exemple les risques liés à la guerre. Puisqu'ils tournent avec une brigade de soldats, ils ont les mêmes conditions qu'eux. Ils ressentent la pression et le danger des frappes et des projectiles. Depuis que ce métier existe, beaucoup de journalistes sont morts. Aujourd'hui, il y en a plus de 2000. Et ils peuvent aussi être considérés comme des espions par un des deux pays ennemis. Ils font aussi face à des difficultés psychologiques, comme le sentiment d'impuissance face à ces guerres qui se répètent à l'infini. Ils sont aussi confrontés à la violence dans les tranchées et à la mort. Mais pourtant, il y a des normes de sécurité pour les protéger. Il y a de nombreuses règles, comme par exemple se coucher par terre lorsque l'on entend le sifflement d'un obus. Ils doivent porter un casque, un gilet pare-balles et une carte de presse qui prouve qu'ils font partie de la presse. Même si dans certains pays, comme au Nigeria, il vaut mieux ne pas dire qu'on est de la presse. Et toutes ces mesures visent à préserver leur sécurité. De plus, personne ne doit visionner les images avant qu'elles ne soient diffusées. Et les journalistes doivent aussi flouter tous les indices qui permettent de situer des chars, des ponts ou des lignes à haute tension qui mettraient la vie des soldats en danger.
Comme nous venons de l'entendre, documenter un conflit est une opération très délicate et elle peut malheureusement mal tourner parfois. Marius, Clara, Emmanuel et Bianca retraceront donc le parcours d'Olivier Dubois pour nous permettre d'imaginer un peu mieux ce que l'on peut ressentir dans ce genre de situation extrême.
Que feriez-vous si vous étiez pris en otage à cause de votre métier? C'est la situation d'Olivier Dubois, journaliste français qui a été pris en otage le 8 avril 2021 à Gao par le groupe terroriste Al-Qaïda au Mali. alors qu'il était sur le point d'interviewer un chef djihadiste.
Imaginez-vous prisonnier dans l'Azawa, menant une vie en extérieur, en permanence, face au risque d'intempéries. L'hygiène de vie rendue compliquée, obligée de manger au sol, et vivant des déplacements difficiles et fréquents, en pick-up ou en moto la plupart du temps. Alors que beaucoup auraient perdu espoir, Olivier fait preuve d'adaptation face à la situation. Cette vie difficile étant devenue une habitude pendant ces 2 ans de détention.
Ouais, et donc très attaché à son métier et à ses valeurs, Olivier va continuer d'exercer son métier de journaliste malgré l'adversité. Et pour ça, il va avoir une stratégie principale, c'est de s'intéresser à la culture de ses bourreaux. Et donc pour ça, il a par exemple lu le Coran, afin de discuter avec ses agresseurs. Et il a été étonné parce qu'ils étaient vraiment ouverts au débat. Cependant, c'était le seul sujet de discussion valable, et ça lui a vraiment permis de comprendre l'engagement de ses agresseurs, et vraiment, malgré une idéologie finalement contraire à la sienne, tout en ayant une barrière de la langue et en mettant sa vie en péril. Et donc ça marque vraiment la continuité de son métier là-bas. Et donc Olivier s'est aussi mis à cuisiner, et donc ça montre vraiment la prise d'indépendance qu'il a pu avoir, et ça lui a aussi permis de s'initier encore mieux dans la culture de ces gens-là. Et donc ça lui a aussi permis d'être du coup plus estimé et compris par ses agresseurs. Et donc cette stratégie, elle a marché parce que justement, il dit qu'il n'a jamais subi de violence physique.
Il continue à écouter la radio continentale comme internationale afin de garder un certain esprit critique sur le monde et sur sa situation et de rester informé, donc de ne pas s'isoler, ce qui lui permettra par la suite de garder une certaine lucidité dans la retranscription de son expérience. De plus, il écoute la radio tous les 8 du mois afin d'entendre les messages de ses proches. Il tient aussi à garder un lien humain, c'est pour ça qu'il se lie d'amitié avec Jerko, un autre prisonnier par exemple.
Il dit vouloir écrire à ce sujet, mais il a besoin de temps pour prendre du recul, garder une certaine objectivité et se reconnecter à sa vie de famille. Il n'est pas contre un retour au Mali.
Mais il serait trop simple de ne résumer les contraintes auxquelles les journalistes font face qu'à des menaces évidentes, comme le risque de mourir sur une ligne de front ou d'être pris en otage. Les journalistes peuvent parfois devoir lutter contre des États entiers, dans lesquels la liberté de la presse n'est pas toujours acquise. Nous écouterons maintenant Mia, Chloé, Aditya et Nelle, qui nous parleront de ce type de lutte au travers de l'exemple de la Hongrie.
Nous allons voir comment les médias indépendants font face au contrôle d'un régime autoritaire et d'une dictature. On prend l'exemple de la Hongrie.
La Hongrie se qualifie comme une démocratie, mais en réalité, c'est plutôt une dictature. Viktor Orban est le premier ministre depuis 2010 et il dirige plus de 80% des médias publics. De plus, ses amis contrôlent la plupart des médias privés. Nous voyons bien que le premier ministre a la main sur la globalité des médias en Hongrie. C'est pourquoi les médias indépendants ont beaucoup de mal à se faire entendre.
Il existe beaucoup de journalistes dirigés par l'État en Hongrie. Ils ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent, sont surveillés de très près par l'État, ils sont donc victimes de censure. Il y a aussi beaucoup de propagande, avec des affiches des dirigeants un peu partout. Nous pouvons prendre l'exemple de 10 journalistes qui ont fait la pub pour Viktor Orban sur la chaîne TV2. Très peu d'informations sont diffusées dans la campagne en Hongrie, mais la majorité des Hongrois y vivent. D'après un ancien journaliste, le Fidesz, donc le parti de Viktor Orban, fait exprès d'éloigner les gens qui vivent en province des médias et des informations. Il dit aussi que ce parti dépense énormément d'argent et fait énormément de propagande dans les recoins les plus reculés de la Hongrie.
Comment vous savez maintenant, Viktor Orban a la main sur tous les médias publics et ses amis contrôlent les médias privés. Mais il y a aussi nombreux médias fiables qui sont indépendants. Le but est de faire du journalisme indépendant et libre. En prime, toi aussi, et un collectif contre Viktor Orban complètement indépendant.
Il publie des feuilles A4 et il distribue cette brochure dans des gares et des boîtes aux lettres. Des jeunes croient à un avenir dans le journalisme indépendant. Un des jeunes est Zoma. Il a 19 ans et il est étudiant en journalisme. Il croit à un futur pour le journalisme indépendant, si des médias fiables se renouvellent pour gagner en portée et influence.
On en conclut que le combat des journalistes indépendants dans les pays avec un régime autoritaire ou une dictature est loin d'être terminé, et que ceux-ci sont prêts à tout pour réussir à changer les choses.
Mais dans un régime autoritaire, l'information elle-même donne du fil à retordre aux journalistes. Ils doivent constamment démêler le vrai de faux, car dans ce genre de régime, il est courant de tenir l'information hors de portée de la population pour mieux la contrôler. Emma, Nitz, Leander et Paula nous expliqueront donc comment fabrique-t-on ces fake news.
Vous avez sûrement entendu parler qu'en juin 2022, le journaliste Mohamed Zuber a été mis en prison 3 semaines pour avoir publié une série de tweets dénonçant les commentaires controversés du parti au pouvoir en Inde, le Bharatiya Janata Party, BJP, qui est un parti nationaliste hindou.
Le BJP est effectivement réputé pour être un des partis qui emploie le plus de fake news au monde et qui agresse, comme on le voit bien, les journalistes qui essayent d'agir à l'encontre de cela. Ce qui s'est passé là montre bien qu'il y a une immense industrie de la fake news.
D'ailleurs, vous savez sûrement qu'une fake news désigne une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue dans un but bien précis, comme par exemple encenser un parti politique au détriment d'un autre.
Et là, vous vous demandez sûrement pourquoi et comment propager des fake news. À l'instar du BJP en Inde, d'autres acteurs ont également usé de fake news à des fins politiques, tels que Rodrigo Duterte, l'actuel président philippin, qui, lors de sa prise de pouvoir en 2016, a manipulé le flux d'informations grâce à une armée de trolls.
Une armée de trolls, ou usine à trolls, est une organisation qui regroupe et coordonne des trolls sur Internet, qui sont des messages postés sur les réseaux sociaux par des faux comptes afin d'initier volontairement des polémiques. Le phénomène de la désinformation est fortement amplifié par l'essor et le développement des réseaux sociaux.
En effet, en octobre 2023, une vidéo sur un compte anonyme a été publiée sur X en usurpant l'identité du célèbre journal français Le Figaro. Cette vidéo avait pour but d'induire l'opinion publique en erreur. Bien que Le Figaro ait réussi à faire supprimer la vidéo parue sur le compte original, la vidéo a continué à circuler sur le net puisqu'elle a été republiée à de nombreuses reprises par d'autres comptes. Cependant, les vidéos republiées sont dotées d'un message précisant que la vidéo n'est pas digne de confiance et que le média a été manipulé.
Avec le développement massif des fake news, de plus en plus de journalistes voient leur métier menacé et décident de dénoncer et d'agir à l'encontre de ce phénomène, au péril de leur vie. Effectivement, au cours des dernières années, de nombreux journalistes comme Maria Rassa, Mohamed Zuber et Gouri Lakesh ont reçu des menaces et sont même décédés à cause de leur travail contre les fake news. C'est pourquoi un consortium de médias réputés a été formé afin de révéler l'ampleur de l'industrie de la désinformation. Il s'agit du groupe Storyclass.
Pour conclure, nous pouvons informer que les fake news mettent en danger la vie et le métier des journalistes ainsi que la vie politique de certains pays. Il est donc nécessaire d'éduquer la jeune population afin de se battre contre ce phénomène plus dangereux qu'il n'y paraît.
On pourrait maintenant croire que les journalistes luttent pour la liberté de la presse uniquement dans des États autoritaires, mais ce combat est également mené au sein de démocraties. Nous allons donc écouter Pierre, Olivine, Lorena et Hélène qui nous expliqueront comment certains peuvent mettre des bâtons dans les roues des journalistes lorsque cela s'approche trop de la vérité. Pour cela, ils nous présenteront l'affaire des algues vertes.
Il faut savoir que les industriels agroalimentaires polluent les plages de Bretagne depuis les années 60. Cela provoque la multiplication des algues vertes et l'émanation de gaz toxiques et cause la mort d'êtres vivants, animaux comme humains. De nombreuses morts ont eu lieu depuis les années 70, mais aucun lien n'a été révélé par les autorités. Cependant, des habitants et des journalistes ont découvert la vérité.
Les journalistes qui veulent avoir des informations sur des sujets sensibles, par exemple les algues vertes, peuvent subir des menaces ou des agressions physiques. En effet, quand on prend l'exemple des algues vertes, les habitants ne voulaient pas évoquer le sujet ni en parler, car ils connaissaient forcément quelqu'un qui travaillait dans ces industries agroalimentaires et ne voulaient pas perdre leur travail ou même avoir des représailles. Car en effet, en Bretagne, l'industrie agroalimentaire est très représentée et c'est vraiment l'entreprise qui fait vivre la région. Mais on peut également voir que ces agressions, etc., ne sont pas communs à cette histoire. Et beaucoup de journalistes investigateurs, environnementaux notamment, subissent beaucoup de menaces d'agression et peuvent même être attaqués en justice et en diffamation.
La plupart du temps, les journalistes sont soutenus par leur rédaction, mais cette enquête a pris une trop grosse ampleur pour que la rédaction d'Inès Leroux puisse la soutenir jusqu'au bout. L'État donne du pouvoir à la FNSEA. Donc, il soutient les grosses entreprises et ne veut pas que les journalistes dévoilent les secrets.
Elle a réussi à avoir des informations en habitant dans le village pour être proche des habitants. Cela a marché car des interviews lui ont été accordées et elle a pu recueillir pourquoi de petites informations. En résumé, on peut dire que les journalistes qui enquêtent sur des sujets sensibles et dévoient des scandales permettent à beaucoup de personnes de libérer la parole.
Mais attention, le combat des journalistes ne s'arrête pas là. Frédéric, Laura, Zema et Antonin vont donc maintenant nous parler d'une autre lutte qui se joue, mais cette fois-ci, entre des journalistes et des propriétaires des chaînes de médias qui tentent d'imposer leur vision du monde en dictant une certaine ligne éditoriale.
Bonjour à toutes et à tous, chers Audience, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler du rachat du journal du dimanche par Vincent Bolloré et du brusque changement de la ligne éditoriale d'un des journaux les plus populaires de France. Bonjour Monsieur Hugonnet et Madame Hénon, et merci d'être avec nous ce soir pour parler de cet événement qui a chamboulé la presse ces derniers temps avec une vague de grèves dans le GDD sans précédent. Madame Hénon, de quoi souhaitez-vous nous faire par exemple ?
Bonjour, alors je suis Marianne Hénon, journaliste au GDD. Donc la majorité des journalistes du GDD, dont moi, faisons grève après le rachat de Vincent Bolloré de notre cher journal, car nous ne voulons pas qu'on dicte notre ligne éditoriale.
Pensez-vous qu'un journal privé, comme par exemple GDD, peut avoir une influence sur la politique ?
Cela dépend du rédacteur en chef, et en l'occurrence, nous avons Geoffroy Lejeune au GDD, qui est quand même connu pour être un soutien d'Éric Zemmour. Et nous voulons être capables d'écrire neutralement et reporter les choses comme ils le sont. Je ne veux pas être forcée d'écrire une opinion particulière. Le pluralisme est un principe si important et donc dans notre cas, je pense que oui, ça peut avoir des conséquences sur la politique, en particulier sur l'opinion des gens.
Donc bonjour, je me présente, Jean-Raymond Hugonnet, sénateur chez Les Républicains. Donc pour vous répondre madame, l'événement du 30 juin auquel nous assistons n'est pas anodin. Certains propriétaires ont déjà fait ce que Bolloré a fait. La seule chose ici qui lui est reprochée est sa position politique. Donc, si je suis votre raisonnement, madame, selon vous, tous les médias devraient être de gauche. Vous prenez le pluralisme, mais vous n'acceptez pas qu'un médium soit d'extrême droite.
Existe-t-il d'autres moyens de protester contre la bollorisation que de faire des grèves ?
Oui, tout à fait. Nous pouvons signer des pétitions, partager ce qui se passe sur les réseaux sociaux et voire démissionner. Nous sommes prêts à tout pour continuer notre lutte.
Mais madame, vous oubliez qu'un médium ou un journal a besoin d'un bon financement pour exister. Un journal bien rémunéré est un journal indépendant.
Mais monsieur, nous ne voulons pas que notre journal devienne un médium d'opinion, comme par exemple l'ex-ITLE, appelé aujourd'hui OCNews.
Merci pour votre intervention qui fut très intéressante.
Nous en avons appris plus sur le parcours de journalistes ayant été emprisonnés ou ayant risqué leur vie pour couvrir l'information. Nous avons également parlé des journalistes qui continuent de chercher la vérité malgré la répression de certains États.
En conclusion, le métier de journaliste est plus difficile qu'il n'y paraît. Il ne suffit pas simplement de faire des recherches, de trouver des informations ou de révéler la vérité. Il faut parfois se mettre en danger, être prêt à recevoir des menaces et à combattre pour préserver la liberté de presse.